Bon, on va commencer notre 10e leçon dans notre série sur la mortification du péché chez le croyant. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le 2e principe spécifique. On se rappelle qu'il y en avait 9. Et le principe qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le besoin de posséder un sens clair de la culpabilité, du danger et des maux du péché. Maux, M-A-U-X. Alors, on va faire une brève récapitulation de ce qu'on a vu jusqu'ici. Dans les sermons 1 à 3, on avait appris que la mortification du péché est un devoir qui durera toute la vie et qu'elle est exigée même du plus spirituel. Ce travail ne peut s'effectuer efficacement que par le Saint-Esprit. Dans le sermon 4, on avait étudié le fait que la vigueur, la joie et le confort de notre vie spirituelle dépend fortement de la mortification constante du péché. Dans les sermons 5 et 6, nous avons appris les deux côtés de la mortification du péché, ce qu'elle n'est pas et aussi ce qu'elle est. Dans le 7e sermon, Owen avait affirmé catégoriquement que seul un véritable croyant régénéré par le Saint-Esprit peut pratiquer efficacement la mortification du péché. Dans le 8e sermon, on avait constaté que seule une universalité de l'obéissance peut être efficace. En d'autres mots, nous ne pouvons sélectionner uniquement les péchés qui nous troublent ou qui nous font souffrir. Dans le 9e, Owen nous avait introduit aux 9 principes spécifiques pour la mortification du péché. Alors, il enseigne que la pratique de la mortification doit être précédée d'un sérieux examen de nous-mêmes pour savoir s'il y a présence de 6 symptômes qui indiquent que nous sommes dans un état spirituel pitoyable et que nous devons réagir vigoureusement par la grâce de Dieu, et un combat quotidien et incessant pour reconquérir le terrain perdu. Alors, remémorons-nous les 6 symptômes. Le premier, c'était: est-ce qu'il y a présence dans nos vies du péché invétéré, un péché bien enraciné? Et la deuxième, c'est: est-ce qu'il y a une fausse paix du cœur? La troisième, est-ce que le péché a fréquemment du succès dans nos vies? La quatrième, est-ce qu'on agit dans la mortification uniquement par la peur du jugement ou du châtiment? Est-ce que c'est notre principale motivation? La cinquième, c'était l'endurcissement judiciaire. Et la sixième, la résistance au châtiment de Dieu. Alors, ces grands mots, si présents, exigent de grands remèdes. Dans le 10e sermon, celui d'aujourd'hui, nous verrons le 2e principe spécifique. Nous devons posséder un sens clair de la culpabilité, du danger et des maux du péché. Owen nous fournit 2 façons au moyen desquels nous pouvons approfondir notre sens de la culpabilité de tout péché, de manière à ce que nous ne lui trouvions pas d'excuses. De plus, il nous fournit 4 indices concernant le danger de tout péché non mortifié, qui sont l'autoséduction, la correction divine, la perte de la paix et de la force de l'âme et la destruction éternelle. Owen nous parlera également des 3 mots qui accompagnent chaque péché. Le premier, c'est attrister le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est blesser de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième, enlever notre utilité envers Dieu. Alors, on va commencer par réexaminer le premier point. Nous devons posséder un sens clair de la culpabilité du péché. Les pécheurs, même régénérés, ont conservé ce trait distinctif de l'humanité déchue, la tendance à excuser notre péché, parfois même ceux les plus graves et les plus haineux. Il nous arrive de vouloir s'excuser en nous comparant aux autres ou en nous convainquant que ce n'est pas tellement grave puisque c'est la première fois. Nous oublions rapidement comment le péché nous aveugle et comment il s'accompagne d'autoséduction. La Bible fourmille d'exemples de cela. Nous n'avons qu'à penser à David qui prit tant de temps à reconnaître son péché avec Bathsheba, jusqu'à ce que le prophète Nathan le mette face à la gravité de sa faute. Nathan le confronta tellement fortement qu'il ne put utiliser de subterfuge et de prétexte pour excuser son péché. David a fini par constater de plein fouet la culpabilité de son péché. Le pécheur, même régénéré, possède une habileté déconcertante à excuser son péché. Il le fait à l'aide de raisonnements boiteux, de pirouettes intellectuelles, d'autoséduction et de pensées mensongères. Le chrétien qui pêche doit apprendre à ne pas s'excuser trop rapidement et à voir la profondeur de la culpabilité de chaque péché. Owen suggère deux moyens pour accroître notre sens de la culpabilité du péché. Le premier, le pécheur régénéré, doit prendre conscience que la faute de son péché est plus grave que celle de l'inconverti, parce que nous avons une connaissance personnelle de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, de son assistance, de sa bonté et d'une multitude de délivrances. Les pécheurs inconvertis n'ont pas cette grâce. Romains, chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et le deuxième moyen, Dieu voit les désirs de sanctification de notre cœur. Ceux-ci sont supérieurs à la meilleure des personnes irrégénérées de la terre. Mais si les désirs de notre cœur ne sont pas actualisés, cela nous rend coupables parce que nous ne vivons pas à la mesure de la lumière et de la grâce reçue. Nous ne sommes pas toujours ce que nous professons être. Nous faisons preuve d'hypocrisie dans notre témoignage sur Dieu. Dieu voit ces choses. Rappelons-nous ce que le Christ a reproché à l'Église de Laodicée dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est que nous devons posséder un sens clair du danger du péché. Nous devons reconnaître les quatre dangers inhérents au péché. Le premier, c'est le danger que nous nous endurcissions par l'autoséduction du péché. Ce danger est extrême à cause de sa nature même. Il est difficile de voir, de réaliser qu'il s'actualise. Autrement dit, quand on s'auto-séduit nous-mêmes, on a de la difficulté à se rendre compte qu'on s'auto-séduit. Hébreux 3, versets 12 et 13. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Alors, on voit qu'il y a un lien direct. Si quelqu'un ne fait pas attention, il peut s'endurcir. La parole même nous le dit. Le péché possède en lui-même une grande capacité à séduire le pécheur et à le conduire vers la destruction et la mort. Plus un péché s'installe en nous, plus il nous trompe et moins nous craignons Dieu. Il peut se comparer à la perte progressive d'oxygène pour la respiration humaine. Dépasser un certain stade, il est trop tard. Il nous faut porter une très grande attention à ne pas laisser croître le péché dans nos vies. Il produit toujours le même effet. L'aveuglement, l'endurcissement de la conscience et du cœur et la séduction de toute l'âme. Alors, le premier danger, c'est l'endurcissement par autoséduction. Le deuxième danger, c'est que nous attirons la correction de Dieu. Dans les Écritures, on utilise parfois le terme « vengeance », »,« jugement » ou « châtiment ». Dieu utilisera sa verge de correction. Rappelons-nous l'exemple du péché de David qui lui amena la mort de son fils, la diminution de son royaume, la grande souffrance dans son corps et son âme et l'exposition au scandale public et à l'humiliation. Psaume 89, versets 30 à 33. « Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » Alors le Seigneur nous dit ici qu'il va continuer à nous garder dans la voie du salut, mais d'un autre côté, dans le verset 32, il dit « Je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. » Alors, faut pas se tromper là-dessus. Là. Dieu corrige ceux qui sont désobéissants. Le troisième danger, c'est le danger de la perte de notre paix de l'âme et de notre force. Avoir la paix de l'âme et d'avoir de la force pour marcher droitement devant le Seigneur, c'est la somme des promesses de l'Alliance de grâce. Les péchés non mortifiés peuvent nous priver de ces grâces d'une valeur inestimable. On va lire Ésaïe 57, verset 17 dans la version Osterval, qui dit « À cause de l'iniquité de ses gains, je me suis indigné et j'ai frappé. J'ai caché ma face et je me suis indigné. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. » Alors on voit ici, il dit, le Seigneur dit qu'il est indigné, qu'il a frappé, qu'il a caché sa face, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Ça veut dire que quand le Seigneur laisse quelqu'un dans le chemin de son cœur, dans sa vieille nature, ça, normalement, ça l'amène dans la souffrance, une sorte de correction que le Seigneur amène. Aussi, Osée, chapitre 5, versets 13 à 15, « Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Lorsque Dieu se cache de nous pour nous châtier de nos fautes, c'est une chose terrible. Dieu le fait pour que nous admettions notre culpabilité, que nous abandonnions nos rébellions et que nous cherchions sa face. Lorsque Dieu nous cache sa face, nous perdons notre communion avec lui et la puissance de marcher dans ses voies et dans sa présence. Le but ultime est de nous ramener à lui. Nous devons retourner vers une sainte crainte de Dieu. Et le quatrième danger qui est inhérent à tout péché, c'est le danger de la destruction éternelle. Owen croit sans l'ombre d'un doute à la persévérance des saints et à la sécurité de leurs âmes. Aussi, prend-il soin d'expliquer ici ce qu'il veut dire? Il explique d'abord qu'il y a une connexion certaine entre la continuation dans le péché et l'éternelle destruction. Alors, c'est clair, il n'enseigne pas la perte de salut. Cependant, il fait un lien direct entre la continuation dans le péché et la destruction éternelle. Hébreux 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et encore dans Hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alors, il y a des passages dans Hébreux qui sont difficiles, Hébreux 6, Hébreux 10. Certains passages sont énormément utilisés par toutes sortes d'écoles théologiques pour parler soit de la perte du salut, Hébreux 6, entre autres. Mais quand on lit l'Épître dans une traite et qu'on se rend jusqu'à la fin, on arrive justement à Hébreux 10, 39. Et qu'est-ce qu'il dit? Une chose très importante. Nous, il parle à des chrétiens. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alors, ceux qui se retirent, c'est parce qu'ils n'étaient pas des véritables chrétiens. Mais après ça, il dit, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On continue de discuter du problème du péché persistant et enraciné. Nous ferions bien d'écouter ce qu'il a à dire, incluant les prédicateurs de la parole, parce que cette question est très mal comprise de nos jours, ou pire, pas comprise du tout. Plusieurs confondent l'idée sentimentale qu'ils ont de Dieu et l'obligation de la sanctification. L'homme régénéré peut se juger de deux manières. Il peut juger à la fois sa personne et ses voies. Ici, il ne parle pas du jugement de la personne en soi, il parle plutôt de ses voies. V-O-I-E-S. Nous parlons ici de ses voies. Jacques 2, versets 14 à 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » D'ailleurs, ça a fait une grosse ostination théologique aux États-Unis, ce qu'on appelle le « Lordship Salvation », avec... Certains qui ont pris un côté, l'autre ont pris l'autre. Lordship Salvation, ça veut dire qu'après que tu es sauvé, ceux qui défendent le Lordship Salvation disent qu'après que tu es sauvé, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Il faut que le Seigneur soit véritablement le Seigneur de ta vie, ça le dit. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Le mot Seigneur vient avant Jésus, puis vient avant Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus... Il faut que ta vie manifeste que tu te soumets à ses directives, que tu te soumets à ses commandements. Alors, quand il dit ici, Jacques, « Je te montrerai ma foi ou la foi par mes œuvres », autrement dit, c'est par le fait qu'on accomplit la volonté de Dieu dans l'ensemble des choses qu'il nous enseigne dans les Écritures, qu'on démontre qu'on a la véritable foi authentique. Sinon, comme il dit, c'est la foi peut... Il dit... Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Une foi morte, c'est pas une foi qui amène au salut. Alors, il met les chrétiens en garde, même à cette époque-là, au début du siècle. La personne qui croit qu'elle peut demeurer dans le péché et qui n'a pas le désir de le mortifier et d'en être libérée, la raison, c'est souvent parce qu'elle ne reconnaît pas son péché comme étant péché, ne doit pas s'illusionner et croire que le ciel est sa destination finale. La vision claire des conséquences du péché devra le porter à le fuir de toutes ses forces. Owen ne dit pas que la mortification du péché est la cause du salut. Cependant, la mortification du péché est la conséquence du salut et en constitue la preuve et l'évidence. Une vie chrétienne sans mortification peut être l'indication de la non-régénération de l'âme. Le troisième point qu'on va regarder, c'est que nous devons posséder un sens clair des mots du péché, M-A-U-X, là, des mots du péché. Les trois mots qui sont reliés au péché doivent être connus et sérieusement considérés. Le premier des mots, c'est le mal d'attrister le Saint-Esprit. C'est un très grand mal que d'attrister le Saint-Esprit qui nous a scellés pour le jour de notre rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » À remarquer que le verbe « attrister » est vraiment un commandement, le verbe est un impératif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à apprendre ou à laisser, c'est quelque chose que nous devons d'obéir, ne pas attrister le Saint-Esprit. Le croyant doit s'abstenir des convoitises de la chair parce que cela attriste le Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que nous recevons les bénéfices de notre salut. C'est aussi à travers le Saint-Esprit que nous connaissons la présence personnelle de Christ en nous. Nos corps sont les temples de Dieu. Ce fait doit nous inciter à faire très attention à ce que nous exposons dans ce temple parce que Dieu est jaloux de la sainteté de cet endroit. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ce passage-là là, mériterait d'être médité, étudié, remédité et réétudié parce qu'il dit des très, très grandes vérités que nous avons une tendance très naturelle à oublier. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Notre esprit, notre corps lui appartiennent. Il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Mais nous, on a tendance à vouloir garder le volant et à penser qu'on nous appartient et qu'on peut mener notre vie comme on veut. Ce n'est pas ça que les Écritures enseignent. Lamentations 3, versets 32 et 33. « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. » Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Alors Dieu ne fait pas les choses quand il y a des humiliations par plaisir, c'est pour nous amener à la ressemblance de Christ, corriger les choses dans nos vies. Le deuxième mal, donc le premier, c'est d'attrister l'Esprit de Dieu. Le deuxième, c'est le mal de blesser de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Le péché blesse le Seigneur Jésus-Christ en ce sens que sa communication d'amour envers nous est gâtée. De plus, l'adversaire du diable, l'adversaire du Christ, c'est-à-dire le diable, est gratifié. Hébreux 6, versets 4 à 9. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Et voici le verset 9, très important dans l'interprétation de ce passage-là. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Et vous, c'est des avertissements. Mais il prend la peine de dire, quoi que nous parlions ainsi, dans le sens que une terre qui reçoit de l'eau puis qui ne produit pas ce qu'il faut est près d'être maudite. Alors, ça allait à vouloir dire que ça serait possible pour un chrétien de glisser vers la destruction éternelle. Mais le verset 9 est la clé d'interprétation. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, » il parle à des chrétiens, « de choses meilleures et favorables au salut. » Hébreux, il y a plusieurs passages dans Hébreux qui sont très chaudement disputés en théologie. Et il faut prendre le temps de les étudier très, très d'aplomb dans leur contexte et regarder post-post que uniquement... Le grand danger dans l'interprétation des Écritures, c'est que souvent les gens prennent un verset et ils disent « Le verset dit ça, puis c'est ça. » Oui, mais les Écritures disent d'autres choses aussi. L'interprétation, il faut que tu prennes ce que, qui a été dit précédemment, faut que tu regardes ce qui a été dit après, puis ensuite, faut que tu regardes ce que l'ensemble des Écritures enseignent sur le même sujet. Tu ne peux pas juste bâtir une doctrine à partir d'un seul verset. Très dangereux. Mais ça a amené beaucoup d'erreurs dans le passé, et ça l'emmène encore d'ailleurs. Le troisième, c'est le mal d'enlever notre utilité envers Dieu. Le Seigneur bénira très rarement les œuvres d'une personne qui ne mortifie pas son péché. Le Seigneur fera en sorte que ses œuvres, ses travaux, ses entreprises ne connaissent pas de succès. Owen se lamente qu'il y ait eu beaucoup de personnes professant de connaître Christ dans l'Angleterre du 17e siècle, sans que cette supposée foi produise les fruits et les preuves manifestes qui devraient accompagner cette profession. Combien peu les choses ont changé depuis cette époque. Owen déplore que trop de personnes dites croyantes conservent dans leur être des convoitises dévorantes qui, comme des vers, rongent leur obéissance et leur consécration, les corrodent, qui veut dire une destruction lente et progressive causée par les acides sur les métaux. Donc, ça vient nous... C'est que si vous prenez de l'acide, si vous mettez ça sur un tuyau de métal, il va finir par se briser, se percer. Alors, quand on laisse les convoitises, ça nous corrode et ça nous affaiblit. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? Au moins trois. Apprenons le premier principe spécifique dans la mortification du péché. Le deuxième, c'est-à-dire principe spécifique dans la mortification du péché, nous devons posséder un sens clair de la culpabilité qui est rattachée à chaque péché, du danger qui est rattaché à chaque péché et des maux qui sont rattachés à chaque péché. Deuxièmement, nous devons avoir un sens clair de la culpabilité du péché parce que ça nous prenne conscience que nous péchons après avoir reçu la grâce de connaître Dieu, d'avoir obtenu de ses délivrances, d'avoir obtenu des innombrables bénédictions, empirant ainsi la gravité du péché. Alors la culpabilité, la principale idée, c'est on a quelque chose que les païens n'ont pas. Et à cause du fait qu'on a connu Dieu, que Dieu nous a bénis d'une multitude de façons, on se doit de considérer que le péché est plus grave pour un chrétien que pour un non-régénéré. Alors aussi, on doit garder un sens clair des quatre dangers qui accompagnent tout péché non mortifié. L'autoséduction, la correction par Dieu, la perte de la paix de l'âme et de la force de notre marche devant lui, et aussi l'éternelle destruction. La quatrième chose, un sens clair des trois mots qui accompagnent tout péché non mortifié, le danger d'attrister le Saint-Esprit, de blesser de nouveau le Seigneur Jésus-Christ, et d'enlever notre utilité pour lui. Le pécheur doit profondément méditer sur ces choses jusqu'à ce qu'il dise, comme dans Jérémie 5, 22, « Ne me craignez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi. » Implorons l'Éternel de nous donner la grâce que nous possédions un sens clair de la culpabilité, du danger et des maux qui accompagnent les péchés non mortifiés pour sa plus grande gloire. Amen.